بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc aujourd'hui on rentre dans le dernier chapitre sur كتاب الطهارة, donc dans le chapitre de la purification. Et inshallah, la semaine prochaine, bifadlillah tabaraka wa ta'ala, on commence Kitab al-Salah, le livre relatif à la prière. Donc ce chapitre, il se termine par Babun fi ahkam al-haydi wal-nifas, les caractéristiques ou les règles qui régissent des menstrues et des logis. Il régit des menstrues et des logis. Et ici, il est très important pour le musulman, homme ou femme, de connaître ce chapitre. Premièrement, pour la femme, puisque en connaissant ces règles-là, elle va savoir comment se purifier, elle va savoir à quel moment elle peut prier, à quel moment il lui est interdit de prier, à quel moment elle peut jeûner, à quel moment il lui est interdit de jeûner, etc. Et également pour l'homme, puisque l'homme, en connaissant ces règles-là, il va pouvoir conseiller son épouse, ses filles, ses sœurs, ses cousines, ses, les femmes qui sont autour de lui. Et ça, c'est un point essentiel, un point important. Donc en arabe, « el-hayd », donc les menstrues, « el-hayd », ça vient du mot « el-hayd », ça vient du mot « l'écoulement ». Ça signifie le fait de... Ça signifie un écoulement. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, dans le verset 222 de Surat al-Baqarah, « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Donc ce verset dans Surat al-Baqarah, où Allah, tabaraka wa ta'ala, nous informe dans le sens, et il t'interroge au sujet des menstrues, dit cela est un mal, écartez-vous des femmes le temps de cette période-là. Et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se purifient. Et lorsqu'elles se purifient, allez à elles comme Allah tabaraka wa ta'ala vous l'a commandé. Certes Allah aime ceux qui se repentent et certes Allah azza wa jalla aime ceux qui se purifient. Donc, les menstrues, c'est un sang qui est naturel. Yani Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé cela dans les femmes. يَخْرَجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِيمِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ. Donc, c'est un sang qui sort de l'utérus, yani du fond de l'utérus de la femme, à des... Il y a des moments bien particuliers, à des moments bien définis. Et cela commence à partir de la puberté. خَلَقَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِحِكْمَةِ غِذَا الْوَلَدْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. Et ici, un point important. La sagesse pour laquelle Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَ a créé la femme avec ce cycle menstruel. C'est qu'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَ il a créé les menstrues pour nourrir l'enfant dans le ventre. Allah Azza wa Jalla, il a créé cela pour nourrir l'enfant dans le ventre. Car l'enfant, le fœtus, lorsqu'il se forme dans le ventre, lui, il a besoin d'une alimentation. Et s'il prendrait de l'alimentation de sa mère, bah automatiquement, ça l'affaiblirait encore plus et ça la rendrait, ça lui causerait un mal. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il a créé ce sang-là et ce sang-là nourrit le fœtus. Ce sang-là nourrit le fœtus. Allah tabaraka wa ta'ala a donné cela comme une alimentation pour le fœtus. Donc subhanallah, on peut bien voir la création d'Allah azza wa jalla. Allah il a créé les filles de Adam alayhi salam, donc les femmes, les êtres humains femmes, depuis qu'il les a créées. Allah Azza wa Jalla nous a créé avec cet écoulement. Et si on réfléchit aussi à un autre point qui est incroyable, c'est que Bon, certes, lorsque la femme, elle a ses menstrues, elle ressent une fatigue, elle ressent une faiblesse, mais ça ne lui cause pas un mal. Ça ne cause pas un mal particulier. Alors que, imagine que le sang, et c'est là qu'on voit bien que le sang des menstrues, ce n'est pas le même que le sang, que le sang, l'autre sang. Imagine que la femme, chaque mois, elle perdrait autant de sang. Des fois pendant 6 jours, pendant 7 jours. Elle perd autant de sang. Subhanallah. Tu perds autant de sang, là, tu vas à la mort. Elle se vide de son sang. Alors que là, non. Là, c'était un sang spécifique. Qui ne lui cause pas le tort que si ça aurait été le sang normal qui sort. Ya subhanallah al-azim. La création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, contrairement au sang naturel qui coulerait en abondance, imagine chaque période, etc., ça lui causerait un mal. Donc ici, d'une manière générale, les menstrues reviennent chaque mois. Ça peut arriver pour une femme que les menstrues viennent au bout de 2 mois. Et allez, chaque femme est différente. Et ça peut même arriver, pour certaines femmes, que leurs menstrues ne viennent pas pendant 6 mois, voire 7 mois. Mais quand elles viennent, entre guillemets, ça rattrape tout le temps perdu et pendant plus d'un mois, elles les ont. Chose, Allah Azza wa Jalla, il a créé. Il a créé chaque personne d'une morphologie spéciale. Et c'est pour cela que le sang des menstrues, il est rare chez les jeunes filles. Il est même très rare chez les jeunes filles. C'est pour cela que même certains savants, ils en ont tiré une règle de fiqh, ils ont dit il n'y a pas de menstrues avant l'âge de 9 ans. Il n'y a pas de menstrues avant l'âge de 9 ans. Mais d'autres, et c'est l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que les menstrues peuvent sortir même avant l'âge de 9 ans. Mais d'une manière générale, la petite fille, la jeune fille, n'a pas ses menstrues. Regardez toujours cette sagesse. Et également, donc on a dit les menstrues, ce sang-là, il a été créé par Allah Azza wa Jal pour nourrir le fœtus. C'est pour cela qu'il est très rare que lorsque le bébé y sort, la femme a encore ses menstrues. C'est plus les menstrues, c'est les lochis. C'est un autre sang, c'est une autre chose. Pourquoi ? Parce que ce sang des menstrues, il se transforme en lait. Il se transforme en lait dans la poitrine de la femme et ce lait qui est la nourriture du bébé. Regarde, subhanallah al-azim. Fatabarakallah. C'est le khaliqin. Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le meilleur des créateurs. Donc c'est pour cela qu'il est rare que la femme enceinte ait ses menstrues. Également, il est rare que la femme qui allaite ait ses menstrues. Ça peut arriver, mais ce sont des choses qui sont rares. Et là, on comprend maintenant pourquoi. Par contre, si la femme n'est pas enceinte et n'allaite pas, là, le cycle vient, d'une manière générale, il vient normalement. Donc on a dit que, d'une manière générale, il sort chaque mois, entre 6 jours et 7 jours. C'est possible que ce soit plus, et c'est possible que ce soit moins. C'est possible que ce soit plus, et c'est possible que ce soit moins. Car, yani, le cycle menstruel d'une femme, yani, chaque femme elle a été créée avec son cycle menstruel. D'une manière générale, c'est 6 ou 7 jours. Ça peut être 3 jours, ça peut être 2 jours, ça peut être 4 jours, et ça peut être plus. Dans tous les cas, ce qui est important pour la femme ici, c'est de savoir reconnaître le sang des menstrues. C'est ça la base, en fait, ici, à ce moment-là. C'est de savoir reconnaître le cycle des menstrues. Puisque si une femme, au bout de 6 jours, 7 jours, ça continue, est-ce que je suis encore dans les menstrues ? Tu regardes par rapport au sang. Les caractéristiques, et subhanallah, comme on verra un exemple, le sang de la métrorragie, regardez, c'est deux sangs qui sortent chez la femme et qu'ils ont deux caractéristiques opposées. Donc là, on va déjà voir la caractéristique des menstrues. Vous allez voir tout à l'heure, bi'idhnillah, la caractéristique de la métrorragie. Premièrement, il a une caractéristique dans sa couleur. Le sang des menstrues, c'est un sang qui vire, qui tire vers le noir. Deuxièmement, dans son aspect. Il a un aspect épais, visqueux, et également dans son odeur. Il dégage une mauvaise odeur. Et les... ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres de Fiqh, de nos savants. Et certains parmi les médecins contemporains de notre époque, ils ont rajouté même une quatrième caractéristique, et on peut la citer, aucun problème, qui est le fait que ce sang-là, il ne durcit pas. Vous avez vu quand on fait hijama, là, le comment on appelle ça, le sang ?
Coagule.
Voilà, il ne coagule pas, il ne durcit pas. Chose, subhanallah, ce n'est pas un sang qui va durcir. Donc voilà la caractéristique de ce sang. Donc ici, il est important de savoir que la femme qui a ses menstrues, lorsqu'elle a ses menstrues, il y a des choses qui lui sont interdites. Il y a des choses qui nous ont été détaillées dans le Coran et dans la Sunna que la femme ne peut pas faire. Donc ici, c'est vraiment un résumé. D'accord ? Nous, on voit ça, entre guillemets, on survole le sujet. Et à chaque personne, et surtout pour la femme, de s'étendre dans le sujet, de lire sur le sujet, de lire les fatwas des savants sur le sujet, puisqu'il y a eu beaucoup de réponses par rapport à cela, par rapport à des cas spécifiques, etc. Parmi les règles, c'est que la femme qui est en état de menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Elle ne prie pas et elle ne jeûne pas lorsqu'elle est dans cet état. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, il lui a dit « Iza aqbalatil hayda, fada'i salah » Lorsque tu as atteint le cycle menstruel, dans ce cas-là, délaisse la prière. Et si elle jeûne ou si elle prie durant son cycle menstruel, sa prière et son jeûne ne sont pas valables. Sa prière et son jeûne ne sont pas valables. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit de jeûner et de prier dans cet état-là. Et, ça c'est une règle, lorsqu'on trouve l'interdiction de faire une chose, ça vient automatiquement invalider la chose si elle est faite. Ça vient automatiquement invalider la chose si elle est faite. Et au contraire, encore plus, c'est que si la femme, elle jeûne ou elle prie, elle est comptée comme ceux qui désobéissent à Allah et qui désobéissent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'elle est purifiée de ses menstrues, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rattrape les jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné, mais elle ne rattrapera pas la prière. Elle rattrape les jours de jeûne qu'elle a jeûné, mais elle ne rattrapera pas la prière. Et cela à l'unanimité des savants. Et on a la parole de Aïcha radiyallahu anha où elle disait « Kunna nahidu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa kunna nu'mar bi qada'i sawm wa la nu'mar bi qada'i salah » Donc elle dit nous avons nos menstrues durant la période, durant l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous était ordonné de rattraper le jeûne, mais il ne nous était pas ordonné de rattraper la prière. Également, parmi les règles, il y a le fait que la femme ne peut pas faire le tawaf. Elle ne peut pas faire le tawaf, elle ne peut pas lire le Coran. Elle ne peut pas s'asseoir dans la mosquée et il est interdit pour son mari d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce que, à quel moment le mari peut avoir des rapports avec, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, mais c'est pas tout. Est-ce qu'elle se lave et qu'elle fasse ses grandes ablutions? Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir les rapports avec son épouse, certes, il faut qu'elle se purifie, mais en plus de cela, il faut qu'elle a fait son rousse. D'accord ? Et comme dans le verset que l'on a cité, « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُهُوا أَذَنْ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ » Donc ici, « l'i'tizal » بِمَعْنَا تَرْكُ الْوَطْءِ » Ici, dans le fait « et délaissez, écartez-vous de eux », c'est dans le sens « n'ayez pas de rapport ». n'ayez pas de rapport avec elle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit isna'u kulla shay illa nikah. Faites tout ce que vous voulez sauf le rapport, l'acte en lui-même. L'acte en lui-même. Il y en a dans une autre version illa al-jima'. D'accord ? Sauf les rapports. C'est pour cela qu'il est autorisé pour le mari de la femme qui a ses menstrues de profiter de son épouse de toute manière qu'il le souhaite, à part avoir le rapport. Donc il peut l'embrasser, il peut la toucher. Toutes ces choses-là ne sont pas interdites lors de la période menstruelle de la femme. Également, un point très important. Il est interdit pour le mari de divorcer sa femme lorsqu'elle est en état de menstrues. Il est interdit pour le mari de divorcer sa femme alors qu'elle est en état de menstrues. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, le premier verset de la sourate le divorce. Premier verset de sourate Talaq, sourate 65, si mes souvenirs sont bons. Sourate Talaq, ça. Juste avant Tahrim, ça. Sourate 65. Le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa, fa talliquhunna li'iddatihin. Fa talliquhunna li'iddatihin. Oh, dans le sens du verset, toi le prophète, lorsque tu divorces de tes femmes, divorce-les dans leur période ici, c'est-à-dire li'iddatihin, dans leur période de purification, lorsqu'elles sont. Donc ici, c'était important, c'était vraiment un point important. À quel moment tu peux divorcer la femme? C'est quand elle a été... Regardez, subhanallah, la hikmah, la sagesse. C'est que tu divorces pas ta femme n'importe quand. Tout ça, ça t'aide à réconcilier. À quel moment tu peux divorcer ta femme? Faut qu'elle soit purifiée. Non, purifiée. Faut qu'elle s'est purifiée. Donc elle a... purifier ses menstrues, qu'elle a plus ses menstrues, et qu'il n'y a pas eu de rapport entre ce temps-là.
Ouais.
Tu me suis ou pas? Pour pouvoir la divorcer, il faut qu'elle soit purifiée de ses menstrues et que tu n'as pas eu de rapport avec elle. Si tu as eu un rapport, tu dois attendre après les autres menstrues. Regarde, pour divorcer la femme. Subhanallah al-Azim. Donc, quand tu regardes d'une manière générale, c'est une période qui est courte. C'est une période qui est courte. Donc ici, ce sont des choses importantes à savoir. Et malheureusement, comme le sujet du mariage est un sujet capital, le sujet du divorce est un sujet tout aussi capital. Généralement, le mariage, inchallah, les gens ils sont pressés, ils sont contents, la foi elle monte, ils apprennent et ils veulent bien faire. Ah, le divorce, on n'a pas un qui demande comment je dois la divorcer. Là, ça y est, ça fait partie des choses graves. C'est pour cela que le divorce, il se divise en deux, un talaq sunni, un talaq bid'i. Non, il y a une forme de divorce qui respecte la sunna du prophète et une forme de divorce qui fait partie des innovations. Et malheureusement, avec toutes les histoires qu'on entend, certains de nos frères et certaines de nos sœurs ne craignent pas Allah Azza wa Jal dans cela. Comme tu as craint Allah Azza wa Jal dans le mariage, crains Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le divorce. Naam, ça arrive. Ça arrive de divorcer. Mais divorce selon la sunna du prophète, alayhi salam. Et ça, c'est un point important. Et chaque personne, elle doit prendre conscience de cela. Alors oui, il y a des sentiments. Alors oui, il y a la colère. Alors oui, les gens ils sont vexés. Les gens ils ont été touchés dans leur honneur. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais tout ça, ça ne passe pas avant le Coran et la sunna. Tout ça, ça ne passe pas avant le Coran et la Sunna. Donc les hommes qui divorcent leurs femmes n'importe comment ne sont pas des hommes qui suivent la Sunna du prophète. Allez, ça. Et ça, c'est un point important. Et malheureusement, c'est une catastrophe dans notre communauté. Et ça, d'une manière générale, ça vient des séries télévisées, des films. Ça ne va pas, ben rentre chez toi, je te quitte et ça. Notre religion, ce n'est pas ça. Notre religion, ce n'est pas ça. Tu patientes. Tu patientes, il y a des règles, tu restes avec, tu restes sous le même toit. Ça y est, je te divorce, ça y est, boum. Non. Et après ça va, et les plaintes, et les avocats, et toutes ces histoires, et ça devient des mammifères féroces qui s'entretuent. Alors que non, Ça peut se passer tellement bien. Ça peut être tellement clair. Si les deux y craignent Allah Azza wa Jal. Si les deux y craignent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ici, ça c'est un point important. Et bi'idhnillah, si Allah Azza wa Jal nous le permet, on aura l'occasion d'étudier ces sujets bi'fadlillahi Azza wa Jal. Donc si la personne, et on peut voir aussi dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme qui a divorcé sa femme alors qu'elle était en état de menstrue. Donc il y a un homme qui a divorcé sa femme, elle est en état de menstrue. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu retournes, tu la reprends. Il a dit tu retournes avec elle, parce qu'en fait t'es pas divorcé. Tu retournes avec elle et... regarde ce qu'il lui a dit. Tu retournes. Ensuite, tu la divorceras lorsqu'elle soit en état de purification, si tu veux. In arad. C'est-à-dire que cette période, et d'une manière générale, l'être humain, il est comme ça. Sur le coup, tu es capable de dire toutes les choses qui te viennent en tête. Et après, hein, combien il tombe dans la tristesse et dans les angoisses et dans les pleurs et dans ça et dans ça et dans ça. Malheureusement, c'est malheureux, mais on voit ça dans la communauté, on le voit énormément.
Est-ce que par exemple une personne divorce de sa femme pendant qu'elle est en état de menstruer, est-ce que ce sera valide ou pas, sachant qu'il n'y aura pas su...
Voilà, le divorce, wallahu alam, comme ici dans le hadith, il n'est pas valide. D'accord ? Le divorce n'est pas valide. Après, le sujet du divorce, c'est vraiment un sujet... C'est vraiment un sujet vaste et surtout il faut s'attarder dessus. Il faut s'attarder dessus. Les savants, ils ont expliqué d'une manière très très claire dessus. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'at-tahr ? Le fait qu'elle soit purifiée. Le fait qu'elle soit purifiée, donc comme on disait tout à l'heure, c'est le fait que le sang arrête de couler. C'est que l'écoulement a cessé. Et lorsque le sang a arrêté de couler, là, elle devient pure. Et à ce moment-là, son cycle menstruel, il s'arrête. Et il lui est obligatoire de faire les grandes ablutions, de faire l'irtisal. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, bah, tout ce qui lui était interdit, lui redevient autorisé. Et il arrive aussi qu'après la purification, certaines femmes voient des traces jaunes, des traces foncées, comme des traces, ils pensent, des traces d'impureté ou autre. Dans ce cas-là, l'âme telle tefit ilay. Elle ne doit pas en prendre en considération. Puisque Atiyah, radiyallahu anha, c'était qui Atiyah? Atiyah, c'était celle qui lavait les morts au temps du prophète, alayhi salam. Et c'est elle qui a lavé Zaynab, la fille du prophète, alayhi salam. Et le prophète, alayhi salam, lui a dit, irsinnaha salathan, ou khamsan, dans une version, ou sab'an, ou akthar min thalik, in ra'aytunna thalik, waj'alna fi akhirihinna kafura, ou shay'in min kafur. Le hadith de Atiyah, c'est un hadith, c'est la base dans l'apprentissage du lavage mortuaire. C'est la base de l'apprentissage de l'apprentissage. Et Atiyah faisait partie des enseignantes. C'est elle qui a enseigné le lavage mortuaire à Mohammed ibn Sirin. Et l'imam Shawkani, il rapporte, il dit qu'à partir de cela, ça prouve qu'une femme peut enseigner à des hommes. Parce que Atiyah, radiyallahu anha, c'est elle qui a enseigné le lavage mortuaire à Mohammed ibn Sirin. Chose, subhanallah, al-azim. Al-ilm. Et vous trouvez cette parole dans Nayl al-Awtar de l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Donc Atiyah, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait kunna la na'ud al-kadra wa as-sufra shay'a. Yani toutes ces c'est le hadith al-Bukhari. C'est un hadith rapporté par Rawahu al-Bukhari. Précise pas le numéro ici. Tfaddal. Donc ici il dit, ah non, précise ici. Donc le Bukhari et d'autres Le hadith 326. 326 de Bukhari. Donc, elle dit, nous ne, il y a ni toutes ces traces-là, etc., nous n'en prêtions pas. C'était pour nous, hein, c'était rien du tout, tu vois. Un point important. Donc il dit Tenbihun Muhim. Ici, c'est un point très important. Et ça, que chacun retienne ce point et qu'il en parle autour de lui, à sa femme, à sa mère, peu importe. Parce que c'est un point que beaucoup de nos sœurs se trompent. Beaucoup de nos sœurs se trompent. Écoutez bien ce qu'il dit le cheikh. Hafizallah. Si la femme se purifie, donc de ses menstrues ou de ses lochis, avant le maghrib, avant que le soleil ne se couche, elle doit prier quoi? Elle doit le prier Zohr al-Asr. Elle doit le prier le Zohr al-Asr. Et si elle est devenue, elle est en état de pureté avant le Fajr, elle doit prier quoi? Le Maghrib al-Isha. Elle doit prier le Maghrib al-Isha. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu qu'on est en voyage, tu peux regrouper le Zohr al-Asr, t'as du début du Zohr jusqu'avant le Maghrib. T'as tout ça pour prier. La même chose, t'as toute la nuit pour prier le Maghrib al-Isha. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'est purifiée, elle était dans cette... Elle n'a pas prié Zohr, même après l'Asr, parce qu'elle avait une excuse valable. Comme le voyageur qui a une excuse valable. Dans ce cas-là, elle devient pure à ce moment-là. Elle prie Zohr et l'Asr. Elle prie Zohr et l'Asr. Parce que le temps de la deuxième prière, c'est le temps de la première prière lorsqu'on a une excuse. Vous suivez ou pas? Et notamment, c'est la parole, une des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, où il dit وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِ وَأَحْمَدْ يَقُولُونَ. Donc, et cela, c'est la majorité des savants, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, ils disent إِذَا تَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. Lorsque la femme en état de menstrue se purifie à la fin du jour, elle prie Dhuhr et l'Asr en même temps. Et si si elle se purifie à la fin de la nuit, elle prie le Maghrib et l'Isha, sallat al Maghrib wa al-Isha jami'a. Et ensuite, il ramène que cela ça a été rapporté par Abdurrahman ibn Auf, par Abu Huraira, par Ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Car le temps de la prière, yani le temps de, comme on l'a expliqué, yani c'est un temps vaste qui est mushtarak bayna salatayn. C'est un temps vaste qui est yani qui englobe les deux prières. D'accord? Wa amma idha dakhala 'alayha waqtu salah thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli. Maintenant, le contraire. Un exemple, l'adhan du Zohor est à prier. Il y a sonné. Elle est dans la maison, peu importe. Elle a le temps de prier jusqu'à l'Asr. Que le mieux, c'est de prier directement. Mais elle a... Et durant ce temps-là, donc, le Zohor est rentré. Durant ce temps-là, les menstruelles sont tombées. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc ici, c'est un sujet qui porte divergence entre les savants. Mais le cheikh ici, il dit « Fal qawlu rajih ». L'avis le plus prépondérant, c'est qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper sa prière. Il ne l'est pas obligatoire de rattraper sa prière. Si elle a eu le début, elle est rentrée dans le début, dans le premier temps de la prière, ensuite elle a eu ses lochis ou ses menstrues, elle a eu ses menstrues ou ses lochis, Annie. Pendant cette période, elle n'a pas pu prier. Il dit al-qawlu rajih annahu la yulzimuha qada ou tilka salah. Il ne lui est pas obligatoire de rattraper sa prière, bien que d'autres disent qu'elle devra rattraper sa prière. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est qu'elle ne rattrape pas sa prière. Comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit wal-azhar fi al-dalil madhhab Abi Hanifa wa Malik annaha la yulzimuha shay. لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمه بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهو غير مفرط فهي غير مفرطة. Donc il explique ici l'avis le plus prépondérant, c'est l'avis d'Abu Hanifa et l'avis de l'imam Malik. Et l'avis de l'imam Malik. Et ici, ça répond à tous les gens qui disent, un exemple par rapport à Cheikh Fawzan, c'est un Hanbali, il suit aveuglément le madhhab de l'imam Ahmed. C'est pour ça qu'ici, on a dit, nous, on ne suit pas le madhhab. Ici, regardez, l'avis le plus prépondérant ici, c'est quoi? L'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Abu Hanifa. Donc regardez ici, malheureusement, certaines personnes veulent accuser nos savants de suivi aveugle et autres, alors que non. Alors que nous, on ne suit pas un madhhab particulier, on ne suit pas une école de pensée particulière, on ne suit pas les hommes. Nous, on suit la vérité. Et la vérité, elle est auprès de nos savants. Si dans cette mes'ala, tel savant a ramené les preuves, nous, on suit là où la preuve est. Donc ici, le frère pose la question, lorsque la femme est enceinte, etc., et qu'elle va commencer à accoucher, à quel moment elle arrête? Ici, c'est au moment qu'elle perd les os. Au moment qu'elle perd les os, au moment où la femme elle perd les os, khlas. C'est fini, là, elle n'a plus de prière. Ça rentre dans les louchis. Ah, toi, tu... Allez, dans la... tu vas la faire prier. Non, non, c'est au moment qu'elle perd les os, au moment qu'elle perd les os, khlas. Au moment qu'elle perd les os, elle n'est plus en état de prier. Regarde le bienfait. Il y a le bienfait pour la femme. Donc, on termine sur ce sujet. Donc, voilà l'avis le plus prépondérant par rapport à cette question. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et de Malik qu'il ne lui est pas obligé de rattraper. Il ne l'est pas obligé de rattraper. Et ensuite, il explique qu'elle n'a pas été négligente. Lui, elle a retardé sa prière, mais elle avait le droit. C'était autorisé. C'est pas comme une personne qui a été négligente ou autre. Et ensuite, il dit, quant à celui qui dort ou celui qui a oublié, tant qu'il n'a pas été négligent dans cela, lui aussi, cette personne aussi, ne doit pas rattraper. Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà pour les règles des menstrues.